Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Dans un monde où les certitudes s'effondrent, où l'absurde devient réalité, l'œuvre de Samuel Beckett résonne avec encore plus de justesse aujourd'hui. Plus de 30 ans après sa mort, l'écrivain d'origine irlandaise, le dramaturge d'expression française, auteur de la pièce mondialement connue En attendant Godot, le poète, romancier, prix Nobel de littérature en 1969, ne cesse de nous troubler, nous bousculer et nous étonner aussi. Sous le charme de Samuel Beckett, Maïlys Besry en a fait le héros de son livre intitulé « Le tiers-temps », du nom de la maison de retraite où il a fini ses jours en 1989. Un texte de fiction mais traversé par les grandes questions beckettiennes, le silence, le corps, la disparition. Publié aux éditions Gallimard, il vient de remporter le Goncourt du premier roman. Et avant de retrouver en ligne la lauréate, écoutons l'une des très rares archives de la voix de Samuel Beckett qui ici lit un extrait de son roman « What » en anglais.
« What will not a base one just, but of what? Of the coming to, of the being as, of the going from, not habitat. Of the long way, of the short stay. » Of the going back home the way he had come, of the empty heart, of the empty hands, of the dim mind wayfaring through barren lands, of a flame with dark winds hedged about, going out, gone out, of the empty heart, of the empty hands, of the dark mind stumbling through barren lands, that is of what will not abase one.
Bonjour Maïlys Besry.
Bonjour.
Vous êtes donc la lauréate 2020 du Goncourt du premier roman, une récompense annoncée à la toute fin du confinement. De fait, est-ce que vous avez pu rencontrer le jury Goncourt ou pas encore ?
Non, j'ai pas pu les rencontrer. Je me suis adressée à eux par écrit pour les remercier et pour les remercier aussi que le prix ait été décerné le jour de la réouverture des librairies, ce qui était assez symbolique et j'étais très contente que ça se passe à ce moment-là.
Oui, ça a dû être en plus une belle surprise pour vous, car le livre a paru en février. C'est vrai que les librairies ont dû être fermées. Et là, double joie, réouverture des librairies et un prix pour votre roman.
Oui, un peu en résonance avec ce qui se passait, puisque Le Tiers-temps, c'est en lui-même un livre assez confiné, dans la mesure où il se passe à huis clos, dans une maison de retraite dans laquelle vivait Samuel Beckett ces dernières années. Donc, il y avait une sorte de résonance dans le fait que ce livre ait pu être récompensé au moment où il y a eu ce confinement-là.
Alors, c'est vrai, et vous précédez de fait ma prochaine question, parce que cet enfermement forcé que nous avons subi trouve en effet un écho dans ce très beau roman où vous mettez en scène Samuel Beckett à un moment clé de son existence, puisque vous imaginez ces 6 derniers mois dans cette maison de retraite à Paris, où il finit par s'éteindre en décembre 1989. Et même si lui apprécie la solitude, ce n'est pas forcément le cas de la majorité des patients. Et j'imagine que vous, après avoir travaillé sur ce cadre particulier, vous avez dû peut-être plus que les autres penser à tous les malades qui ont subi un isolement drastique, une souffrance supplémentaire qui pour certains a été fatale d'ailleurs.
J'ai pensé beaucoup aux résidents des maisons de retraite et aussi au personnel et aux familles, puisqu'il y a eu ces décisions prises d'un confinement absolu. Beaucoup de familles n'ont pas pu se rendre aux côtés de leurs proches au moment de leur fin de vie. C'est vrai que ce qui s'est passé pour Samuel Beckett est un peu différent. C'est une autre époque, ce n'est pas encore l'EHPAD, mais c'est la maison de retraite. En revanche, lui, il a subi aussi un grand isolement, mais qui correspond à une forme de solitude qui lui était propre, à savoir une vie intérieure très riche dans sa chambre, puisque Samuel Beckett ne prenait pas ses repas avec les autres résidents, ne participait pas aux autres activités. Donc finalement, il était relativement confiné dans sa chambre, mais depuis sa fenêtre qui donnait sur le jardin, là, le jardin dont je parle beaucoup au début du tiers-temps, avait comme une sorte de fenêtre sur l'extérieur qui lui arrivait à la fois par ce qu'il pouvait voir de ce jardin, de ce qui se passait, mais aussi du son qu'il perçoit de l'extérieur, c'est-à-dire le bruit des discussions, ce qui se passe dans le couloir, la petite tournée des infirmières et des aides-soignantes le soir, mais aussi ce qu'il se passe, ça c'est ce que j'ai imaginé, au travers des murs. Donc il y a comme ça une sorte de dialogue entre les vies intérieures, et ces dialogues-là, je les imaginais complètement en écho avec son œuvre théâtrale, mais aussi sa prose.
Donc nous allons entrer dans un instant en détail dans votre fiction, Maëlys Besry, qui, je le rappelle, n'est vraiment pas une biographie, mais dans la mesure où elle s'incarne dans le corps et l'univers d'un homme qui a réellement existé, est-ce que vous voulez bien, pour commencer, nous dire aussi ce qui vous lie à Samuel Beckett ?
Ce qui me lie à Samuel Beckett, c'est d'abord l'Irlande. L'amour que j'ai pour ce pays-là, pour sa langue, l'anglais tel qu'on le parle en Irlande, qui est un anglais un peu imagé, qui est l'anglais aussi qui repasse par des chemins de la langue gaélique qui s'est un peu perdue, mais c'est une langue qui passe par tout un tas de virages pour exprimer sa pensée, ce n'est pas une langue directe, et c'est vrai que l'Irlande, c'est un pays de miracles littéraires, c'est un pays où il y a 4 prix Nobel pour 5 millions d'habitants. C'est un grand pays de poésie et de littérature, mais aussi de théâtre. Samuel Beckett, il est avant tout irlandais. Et ce prisme-là irlandais, ça m'intéressait de le restituer pour cet auteur-là qui, parce qu'il s'est exprimé en français, parce qu'il a écrit dans la langue française, même s'il a retraduit son œuvre en anglais, est un peu considéré comme un francophone. Et on en oublie un peu son rapport à l'anglais et son irlandité. Donc ça me plaisait que finalement ce soit une sorte d'auteur pont entre ces deux pays-là. Et j'aimais aussi que son cheminement d'écrivain soit un cheminement de bilingue. Après, ce qui me ramène aussi à Beckett, c'est Molloy, notamment, et puis aussi son théâtre. Je pense notamment à Pas moi, cette pièce de théâtre Not I, qui met en scène une bouche un peu folle, qui parle seule. Et j'ai été très touchée en tant qu'auditrice aussi par cette pièce de théâtre. Samuel Beckett, il a beaucoup écrit aussi pour la radio. Et puis, c'est le son de son théâtre que j'aime le plus. C'est ses voix. C'est un théâtre relativement statique. Il est beaucoup question du corps, mais ce corps-là est relativement statique. Et j'aimais beaucoup les voix multiples qui existent, y compris à travers le même personnage.
Et parmi ces voix très importantes qui ont porté le théâtre de Beckett, on se souvient de celle en particulier de Madeleine Renaud, qui interprétait « Oh les beaux jours » dans
Winnie.
Voilà, dans une mise en scène aussi où on ne voyait que le haut de son corps. Et je crois que ce sont des scènes, des moments de théâtre qui nous marquent encore.
Alors oui, Winnie, ça a été un... Alors j'avais beaucoup la voix de Madeleine Renaud en tête, puisqu'il existe une diffusion en ligne, justement, de l'interprétation de Madeleine Renaud de « Oh les beaux jours ». Et puis, évidemment, elle est enterrée dans le sable jusqu'à la poitrine, et son mari est à côté d'elle. On apprend au fur et à mesure de la pièce qu'il est à côté d'elle, et c'est une sorte de vision assez pessimiste du mariage avec la vieillesse qui arrive et la vieillesse qui atteint un peu de folie ces personnages. Elle s'enferme dans des gestes de l'habitude, hein, se brosser les dents, ces petits rituels qui lui font tenir le coup. Elle regarde sans arrêt l'heure, il y a des repères comme ça qui se mettent en place. Et son mari est un personnage très assoupi, très endormi, qui a comme des éveils de conscience. Et pour moi, ça ressemblait aussi à la vieillesse, mais la vieillesse vue certes sous des aspects assez tristes, des petites forces de l'habitude comme ça qui deviennent le seul fil qui rattache à l'existence, mais aussi cet humour féroce beckettien, qui est un humour très irlandais, un humour noir, que j'aimais beaucoup. Et j'avais envie que cet humour-là existe aussi dans le texte, parce qu'il est une manière de voir la vieillesse aussi comme une force, comme quelque chose de très vivant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a conscience que le corps commence à se déliter, que le corps commence à vieillir, ça peut devenir une source intarissable d'humour. Et le moindre geste devient une sorte d'aventure, le moindre geste quotidien, la toilette, les repas, découper sa viande, ça devient une sorte d'aventure. Et j'aimais cette idée qu'un tout petit détail, une toute petite chose ordinaire devienne une sorte d'aventure littéraire.
On va écouter un extrait de cette pièce « Oh les beaux jours » et la voix de Madeleine Renaud.
Voilà un plaisir auquel je ne m'attendais guère. Ça me rappelle le printemps où tu venais me geindre ton amour. Oui, Nice, quoi à moi, je t'adore. La vie, une dérision sans win. Oh, quel épouvantail. Parler de chien-lit. Où sont les fleurs d'un jour? Qu'est-ce que tu as au cou, Willy? Un anthrax? Faut surveiller ça, Willy, avant d'être envahi. Où est-ce que tu étais tout ce temps? Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps? Ta toilette? Tu m'as pas entendu crier? Tu t'étais coincé dans ton trou? Oh, c'est ça, regarde-moi. Repais tes vieux yeux, Willy. Il en reste quelque chose? Quelques restes? Je n'ai pas pu refaire ma beauté, tu sais. Toi, tu es encore reconnaissable en un sens. Tu comptes venir passer quelque temps de ce côté, maintenant? Une petite saison, peut-être? Non? Tu ne faisais que passer. Tu es devenu sourd, Willy. Muet? Oh, je sais, tu n'as jamais été causant. Winnie, sois à moi, je t'adore, et finis fleurette. La parole est aux offres et demande enfin quelle importance. Ça aurait été quand même un beau jour, après tout.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Maïlys Besseri, prix Goncourt du premier roman pour son livre intitulé « Le tiers-temps ». Un titre en soi d'ailleurs très beckettien, à la fois énigmatique mais qui contient bien la notion du temps au cœur de son œuvre et qui est surtout donc le vrai nom de cette maison de retraite où il a fini ses beaux jours à l'âge de 83 ans, à la fois parce qu'il était dans une précarité physique générale, également parce qu'il souffrait de la maladie de Parkinson, et enfin parce qu'il était à cette époque quasiment seul, sans enfant. Son épouse était décédée et puis beaucoup de ses amis étaient morts, à part Jérôme Lindon, son éditeur français, Edith, sa traductrice, qui viennent
Edith Fournier, oui,
lui rendre visite. Et là, de cet espace-temps très singulier, Maïlys Besseri, ce huis clos, vous le transformez presque en scène de spectacle où vous nous faites entendre la voix intérieure de Beckett avec peut-être à l'occasion des personnages secondaires, les aides-soignantes, la kinésithérapeute, le ou la psychologue. Et c'est presque une démarche théâtrale en fait que vous faites ici avec Beckett comme personnage de fiction.
Oui, c'est complètement ça. J'imaginais que, au fond, la maison de retraite, alors c'est vrai que vous parlez du tiers-temps, c'est incroyable que le vrai nom, le tiers-temps, soit si beckettien. Alors il existe toujours le tiers-temps, hein, c'est une maison de retraite du 14e arrondissement, très près de là où il habitait. Et finalement, cette idée du temps, qui pose d'ailleurs beaucoup plus de problèmes en anglais, hein, puisqu'il y a plusieurs mots selon le temps dont on parle, Beckett, il en parle beaucoup, notamment dans ses didascalies. Alors il y a toujours la question de un temps. Alors finalement, un temps, c'est le rythme auquel le texte doit se dérouler. Donc le temps, c'est une histoire de rythme pour Beckett, en tout cas dans l'écriture. Mais le temps est aussi infini, puisque le temps, c'est celui de l'attente. Moi, j'aimais cette idée dans La maison de retraite que lui-même soit pris par le temps. Il y a d'un côté le fait que petit à petit, il se rende compte qu'il risque de ne pas sortir de cette maison de retraite, c'est-à-dire que ce qui est un séjour temporaire s'éternise. Il y a le fait qu'il attende lui-même avec curiosité sa propre mort, d'une certaine manière, puisqu'il y a ce côté aussi très existentialiste chez lui, très existentiel dans le rapport à la mort, c'est-à-dire qu'au fond, la mort devient une expérience qu'il attend depuis toujours. Hein, il y a l'idée d'un personnage un peu mort-né chez Beckett. Donc, pas forcément pessimiste, puisqu'il y a un combat pour rester en vie. D'ailleurs, il a vécu vieux pour un homme de sa génération. Il meurt à 83 ans. Mais en même temps, il y a cette forme de curiosité face à la mort qui n'est pas tellement triste. Donc, c'est l'idée d'une déchéance joyeuse, d'une certaine manière. Il attend de voir à quel moment ça va s'arrêter, en plaisantant et en disant « Ah, toujours des promesses, depuis le temps qu'on me le dit, à quel moment ça va s'arrêter ?» Donc, il y a cette idée-là, qui est aussi une sorte de lutte contre la religion. Il est quand même le compatriote d'une nation très religieuse, surtout son Irlande à lui, c'est-à-dire l'Irlande du début du XXe siècle. Il est né en 1906, c'est un pays très catholique. Lui ne l'est pas, Hein. Il est issu de la minorité protestante, d'une minorité bourgeoise. Il a été élevé dans la religion. Hein. Il a été aussi dans ce qu'on appelait les collèges de garçons. Mais il y a quand même cette imprégnation religieuse très forte. Alors, c'est une forme de révolte de l'athée aussi que de ne pas avoir cette vision-là de la mort. Donc il y a une grande modestie puisque il se met dans le lot de ces résidents dont il rigole. Donc il y a quelque chose de très sympathique au fond puisque il n'est pas là à rire de ses semblables ou à s'en distinguer. Il est un peu dans une réflexion nous les vieux et ça l'amuse beaucoup. Donc il y avait ce rapport-là que moi j'aimais qui est un rapport très simple dans une maison de retraite qui à l'époque est très simple et presque un peu austère. Et ça lui convient bien, lui, dans sa culture protestante, quelque chose de très simple, dans lequel il est presque anonyme, puisqu'il n'est pas question d'être le prix Nobel, ni quoi que ce soit. Il est un parmi les autres.
Et donc, c'est vrai qu'à la faveur de ce quotidien apparemment très répétitif, pragmatique, avec les soins, la toilette, les promenades, l'écriture aussi, dans cette espèce d'entre-deux-mondes, réalité et fiction. Il se souvient de son île natale, l'Irlande, de sa mère, de Joyce, dont il fut le secrétaire, de son arrivée en France, et en particulier au moment de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, si j'ai bien compris, la maison de retraite où il est n'est pas très loin d'un des premiers endroits où il a vécu, comme si la boucle était bouclée.
Complètement. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que chez Samuel Beckett, il y a ce système de boucle dans l'écriture, hein, de répétition de certains mots. Et c'est un peu la même chose pour l'existence. Il est parti de Dublin. Alors, il y a eu plusieurs arrivées en France, puisqu'il est venu en France presque à la sortie des études, au début du professorat en tout cas. Hein, venant de Trinity College, il est devenu lecteur à Normale Sup, professeur d'anglais rue d'Ulm. Et puis, il est rentré quelque temps en Irlande et il est revenu. Et quand il est revenu, peu de temps après, il va y avoir cette épreuve-là de la guerre. Alors d'abord, il va y avoir toute la période avec Joyce, où il va effectivement rencontrer Joyce par l'intermédiaire d'un de ses amis, Thomas McGreevy, qui est devenu un grand critique d'art en Irlande. Il rentre dans ce cercle de Joyce. Il va y avoir une histoire d'amour avec la fille de Joyce, Lucia Joyce, dont nous ne connaissons pas très bien les tenants et les aboutissants. Et puis, il va y avoir un autre épisode, c'est une agression, un coup de couteau qu'il va prendre et qui va se passer effectivement à quelques mètres de la maison de retraite dans laquelle il se retrouvera des décennies plus tard. Il va, un soir d'épiphanie, il va prendre un coup de couteau dans la rue pour des raisons un peu étranges, une sorte d'altercation avec un petit voyou. Et il va manquer de mourir, ça va être un accident relativement grave. Mais au chevet de l'hôpital, il va y avoir trois surprises. Premièrement, la réconciliation avec Joyce, avec qui il y a eu une sorte de dispute quand il a décidé de ne pas se marier avec sa fille. Joyce va revenir à son chevet et va l'aider à se faire soigner. Il va y avoir le retour de sa mère, avec qui il avait des relations un peu brouillées, May, qui va venir aussi à son chevet. Et il va y avoir Suzanne, qu'il avait rencontrée quand il était à Normale Sup, et qui va devenir, des années après, sa femme. En tout cas, leur relation d'amour va commencer au chevet de l'hôpital Brousset.
La mort qu'il avait aussi frôlée en s'engageant dans la résistance française, ce n'est pas forcément un fait d'armes dont il se vantait, mais il a bien participé à la résistance française, n'est-ce pas ?
Oui, oui, il a été résistant sur les conseils, en tout cas l'entremise d'Alfred Perron, qui était son homologue à Normale Sup, hein, qui lui est allé enseigner à Trinity College. Il rentre dans la résistance et il va traduire des documents pour les services secrets anglais. Et donc, il va traduire tout un tas de documents qui seront pris en photo, réduits, roulés comme du papier à cigarette et mis dans des boîtes d'allumettes et seront envoyés aux services secrets anglais. Et puis, il va y avoir une histoire très grave. Il va y avoir cette histoire avec Robert Allèche, un prêtre qui va les donner. Et tout le monde, le réseau va tomber. Son meilleur ami va être déporté, ne reviendra pas de déportation. Et lui va être prévenu au dernier moment et va partir se cacher à Roussillon avec Suzanne. Et c'est une période absolument fondamentale dans la vie de Beckett, puisqu'il va connaître un grand dépouillement. C'est une période où il ne peut plus percevoir l'argent qui lui vient d'Irlande. Il touchait une sorte de pension depuis la mort de son père. Il part en cavale, alors même qu'il est issu d'un pays neutre, qu'il aurait pu passer la guerre en Irlande à l'abri, tranquille. Il va faire ce choix de revenir en France, de rentrer dans la résistance. Il va vivre cet exil caché avec le risque de se faire prendre et va nouer des liens absolument fondamentaux pendant cette période-là, ceux aussi avec le peintre Haydn qu'il va rencontrer lors de son périple à Roussillon. Et cette expérience pendant laquelle il est caché, où il va travailler dans les fermes autour pour réussir à récupérer quelques légumes pour se nourrir avec Suzanne, va être une expérience fondamentale qui va lui inspirer notamment son théâtre. Et puis après la guerre, il va rentrer en Irlande. Il n'a pas vu l'Irlande depuis 6 ans. Il va revoir sa mère qui est malade, qui est très affaiblie. Et puis il va falloir qu'il trouve un moyen de revenir à Paris, de retrouver Suzanne. Et comme à ce moment-là, la situation est très contrôlée, en tant qu'étranger, il n'est pas facile pour lui de rentrer en France, il va s'engager dans la Croix-Rouge irlandaise pour venir reconstruire un hôpital à Saint-Lô. Alors Saint-Lô, capitale des ruines, ville à 90% détruite pendant la guerre. Et il va avoir cette expérience qui va le marquer pendant 6 mois. Il va travailler à la reconstruction de cet hôpital-là. Il va être au service des autres. Et c'est suite à cette expérience-là que Samuel Beckett, qui était relativement bloqué dans son écriture, qui avait écrit simplement un roman et en anglais, et qui ensuite était une sorte d'écrivain qui n'écrivait pas, va comme ça réussir à sortir son œuvre, en tout cas les pièces principales de son œuvre, dans les quelques années qui suivent l'après-guerre.
Alors justement, ce lien qu'entretenait Samuel Beckett avec la France passe aussi, voire d'abord, par la langue, puisque on l'a dit et répété, en effet, il est irlandais, de langue anglaise, mais qu'il a choisi d'écrire en français, avec un rapport néanmoins très ambivalent entre les deux. À la fois, il fuit sa langue maternelle, mais en même temps, il se traduit. Il a une espèce de schizophrénie linguistique. En tout cas, ce qui est le plus intéressant, c'est quand vous lui faites dire qu'il francise l'irlandais et qu'il irlandise la langue française. Il y a donc bien une langue très particulière, propre à Beckett, selon vous, Maëlys Besry ?
Absolument, absolument. Il y a deux œuvres en réalité. Hein. Il y a deux œuvres puisqu'il a écrit en français la grande majorité de son œuvre. Il s'est traduit lui-même, mais en traduisant, évidemment, il a trouvé des nouvelles choses. Donc, l'œuvre est un petit peu différente en anglais. Et en même temps, on le retrouve complètement dans le rythme, dans ce souffle comme ça, nerveux. On le retrouve quand on le lit dans les deux langues. Donc, il y a à la fois une continuité et deux œuvres parallèles. Ces allers-retours, on les retrouve aussi dans sa correspondance. Il y a des gallicismes en anglais, assez marrants. Donc, il s'amuse à jouer avec ces deux langues et à trouver presque un territoire nouveau. La manière dont il utilise le français, il triche un peu avec la langue française, ce qui a créé d'ailleurs tout le charme de son œuvre. Il évite trop de phrases subordonnées, il coupe parfois les phrases au milieu, il a un usage très particulier de la ponctuation. Après un point, on repart dans une phrase un peu comme si on était au milieu, et avec ce système de boucles. Donc, en réalité, il crée un rythme qui est beaucoup plus proche de la langue anglaise, tout en utilisant la structure française. Donc, il y a comme ça un travail entre les deux qui lui offre un territoire de création, un territoire de jeu. Il y a aussi ce français de l'après-guerre, qui est un français aussi un peu argotique, qui a un rapport très fort à cette langue verte aussi chez Beckett. Beckett aime beaucoup l'usage de certains gros mots, de certains mots familiers. Il a aussi dans son théâtre, il y a un rapport un peu scatologique comme ça au corps. Il aime beaucoup raconter des histoires corporelles de déchéance, mais un corps assez brut. Donc, il y a ce jeu aussi qui intervient avec les mots. Et puis, je pense que dans la langue, il y a eu aussi cette volonté de s'éloigner de ses maîtres. Peut-être c'était nécessaire pour pouvoir écrire. Là, la langue va être complètement digérée et va pouvoir réapparaître et sous des formes brèves, courtes, très efficaces, qui vont faire justement sa patte, sa spécificité, et qui correspondent assez bien au caractère de Beckett, puisque c'est un caractère relativement fougueux, très sportif, très nerveux, un joueur de cricket, un joueur de rugby. Et d'ailleurs, ça revient, ça, dans la maison de retraite, dans le tiers-temps, avec le kiné, il s'amuse à aller tellement vite qu'il va jusqu'à la chute. Il y a un côté excessif, comme ça, chez Beckett, qui existe aussi dans sa langue.
Vous aussi, vous jouez beaucoup, Maëlys Bessery, dans l'écriture, parce que vous disséminez ci et là des titres de son œuvre, mais sans forcément les nommer. Vous glissez des expressions qu'il utilisait. Il y a aussi à plusieurs reprises la notion de chute, mais de se relever qu'il aimait tant. On se souvient de cette merveilleuse citation. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue mieux, qui je trouve est une des plus belles phrases qu'on ait pu écrire. Vous nous le montrez donc en train de lire, en train d'écrire, et voilà ces quelques lignes où Beckett s'exprime à la première personne du singulier. Quand j'écrivais à Thiers-Larigot, c'était après la guerre. J'écrivais chez moi, à Paris ou à Ussy. Ma méthode était la suivante, je m'asseyais le soir à ma table, j'imaginais une oreille derrière moi, une grande oreille, accompagnée d'une bouche très belle qui m'écoutait. Elle écoutait les mots à venir dans ma tête à mesure que je les écrivais et me donnait son avis. Et je l'écoutais. Je lui accordais une certaine confiance, je l'écoutais. Elle me disait « ça, c'est pas mal ». Alors je continuais, j'écrivais. C'était sur une route d'une nudité frappante. Elle aimait bien, je continuais. Parfois, je ne savais plus si c'était elle qui m'écoutait ou si c'était moi qui l'écoutais et qui écrivait ce qu'elle me disait. Fermez les guillemets. Ça s'est passé pour vous aussi, Maëlys Bessery. Vous aviez une oreille, peut-être celle de Beckett, qui était à côté de vous quand vous écriviez ce roman.
Complètement. Moi, je l'avais même à mes côtés comme une aide, comme une sorte de compagnon pour entrer dans l'écriture. J'aimais bien cette idée un peu psychanalytique d'imaginer un interlocuteur derrière soi, d'imaginer que l'écriture se passe presque à voix haute, avec cette culture en plus irlandaise de l'oralité comme ça, cette expérience un peu du gueuloir, à lire quelques phrases à voix haute et voir si ça sonne et imaginer un interlocuteur imaginaire, ouais, évidemment, un interlocuteur derrière soi, un peu comme sur un divan, qui pourrait réagir à ça. Et c'est vrai que j'avais aussi cette image en tête de la bouche de Not I dans les pièces de théâtre de Beckett. C'est de, je me disais, cette idée d'une bouche, d'une oreille, en tout cas d'un corps fragmenté, ça lui va bien. À partir du moment où j'avais ça dans la tête, je pouvais l'amener un peu où je voulais. J'avais récupéré ma liberté, puisque je ne pensais pas du tout à écrire comme lui. Je pensais juste à ce qui lui irait bien, d'une certaine manière. Donc, à partir de là, ça me permettait aussi de ne pas me poser de questions existentielles par rapport au fait de pasticher, imiter, etc. J'étais pas du tout dans cette démarche-là. J'étais plutôt dans la démarche d'écrire quelque chose qui lui allait bien et de m'amuser avec ça. Donc c'était très jouissif pour moi d'avoir cette voix-là dans la tête.
Merci beaucoup, Maëlys Bessery, pour ce très beau portrait que vous faites de Samuel Beckett, l'homme, l'écrivain, le vieil homme, cette voix qui tend vers le silence et qui va finir par s'éteindre. Heureusement, restent les textes, restent les romans, reste son théâtre qui sont toujours aussi vivants. Et d'ailleurs, le tiers-temps pourrait peut-être donner lieu à une adaptation théâtrale. Vous y avez pensé ?
J'y ai pas pensé, mais en tout cas, ça serait tout à fait possible, puisqu'il parle tout le texte et le monde pourrait tout à fait lui parvenir par un système de voix extérieure dans lequel on le retrouve. Et je vous remercie infiniment.
Et à nouveau, la boucle serait bouclée. Donc, le tiers-temps, prix Goncourt du premier roman 2020 et qui a paru aux éditions Gallimard.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Appelez-nous, exprimez-vous.